Au ras des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers des sons, des voix et des rencontres.
Une émission proposée par les radios d'Aura FM à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Au ras des pâquerettes.
Milliards de baguettes par an, 58 kilos de pain consommés par un Français moyen chaque année, 320 baguettes de pain consommées par seconde. Outil de survie à une époque, symbole de révolte par la suite et outil politique de tout temps, cette denrée conserve une place à part dans la vie des Français. Mais que se cache-t-il derrière cet aliment du quotidien? Comment en est-on arrivé à consommer nos baguettes d'aujourd'hui? Et quel avenir pour le pain en France? Plusieurs professionnels de la boulangerie et de la meunerie se sont penchés sur cette question au micro de Radio Val-de-Rhin pour nous conter l'histoire du pain jusqu'à aujourd'hui, de la terre à la table. Commençons donc par le commencement en s'intéressant au blé et à la terre dans laquelle il pousse. Pour nous en parler, Bernard Gillardon, agriculteur à Saint-Romain-de-Popet dans le Rhône. Pour commencer, Bernard Gillardon, comment se compose cette terre dont vous allez nous parler?
La roche mère, le sable, le limon et l'argile. Alors c'est ce qui se trouve dans le sol, mais si on n'a que ça, ça ne va pas pousser. Alors de l'autre côté, vous avez la matière végétale morte, d'éjections de toutes sortes, des produits organiques qu'on ramène sur le sol, et l'humus, tout ça, ça va faire un mélange qui va former la terre. Le taux moyen de formation des sols est environ une tonne par hectare et par an. C'est-à-dire, il se renouvelle à une tonne par hectare, mais quand ça fonctionne bien. On peut considérer que pendant un siècle, on prend un centimètre de terre, ce qui est vraiment très faible. Donc quand on voit l'érosion, on perd beaucoup de terre. Et si on veut conserver la terre, donc il faut trouver d'autres moyens pour la conserver.
Quel est le rôle de la faune et la flore sur la terre?
Donc la flore, vous avez les cultures, les prairies, les couverts végétaux. C'est la protection de la surface aussi contre l'érosion et les ultraviolets. Et on a aussi les plantes qui s'enracinent, qui fissurent le sol, qui vont très loin, qui arrivent à fissurer même dans la roche, comme les arbres qui traversent les sols très durs. Après, vous avez la faune, les lombris, donc les vers de terre, les insectes et l'ave et bien d'autres espèces. Alors, toutes ces espèces, ça malaxe et transforme la matière organique qui est reprise par les bactéries et les champignons qui finissent la transformation. Dans notre sol, en fertilisant la matière organique, l'azote, phosphore, potasse et magnésium, enfin, c'est les principaux, et le calcium. Aussi, on a des oligo-éléments, fer, zinc, manganèse, qui sont très importants quand on cultive. On est plus parti sur l'azote, phosphore et potasse pour faire pousser.
Cette terre, donc, il faut s'en occuper, notamment avec le labour. Quel est l'objectif quand on laboure la terre?
Le labour, c'est surtout pour aérer le sol et décompacter le sol quand le sol est trop dur, enfouir la matière organique et avoir un sol propre pour semer. On n'est pas gêné par les végétaux. Et aussi réduire les mauvaises herbes, c'est-à-dire quand on laboure, on a beaucoup moins de mauvaises herbes parce qu'on bascule tout au fond de l'arrêt de labour. Il y a aussi des inconvénients du labour. Au niveau consommation d'énergie importante pour les tracteurs, parce que ça demande un passage de labour. Après, il faut niveler derrière, ça a un ou deux passages. Ça dépend des terrains. Et destruction, notamment, toute la vie microbienne, les vers de terre, tout ça. Il faut savoir que les vers de terre, ils naviguent dans le sol de haut en bas. Il y a des galeries. Et plus on laboure, moins on aura de vers de terre. Donc, une diminution de taux d'humus, il n'y a pas de transformation, puisqu'il n'y a plus de vie microbienne dans le sol. La terre, elle devient morte. Et pour faire pousser, donc, on a un recours aux engrais chimiques ou organiques, un peu. La culture conventionnelle, on arrive à un stade qu'il fallait mettre de l'engrais chimique parce que ça poussait plus. Et en mettant de l'engrais chimique, on détruit tout, la vie microbienne, surtout avec les phosphates et l'azote. Plus on en met, plus on tue la vie microbienne. Donc, on tue la terre. L'engrais chimique, c'est surtout NPK, azote, phosphore et potasse. Au départ, voilà, on nous disait de mettre ça. Puis après, il a fallu mettre du magnésium. Puis après, il a fallu mettre autre chose, traiter autrement, parce que ça ne poussait plus. Avec des quantités phénoménales, des engrais qui, comme le phosphate, est à moitié soluble. On était un peu les victimes à une certaine époque.
On parle beaucoup de culture biologique. Dans les faits, quelles sont les différences avec l'agriculture normale?
C'est ni plus ni moins pas de pesticides et pas d'engrais chimiques. C'est interdit d'utiliser tous les pesticides et d'engrais chimiques. Mais vous pouvez utiliser des engrais de matière organique bio. Ça peut être des fumiers, ça peut être des feuilles, ça peut être des déchets verts. La culture bio, ça se pratique différemment. C'est-à-dire, il y a une rotation des cultures. Ça peut aller tous les 4-5 ans et puis voire plus. Ils vont faire peut-être 3 cultures, puis après ils mettent en prairie. Donc ça conserve la vie du sol. On peut remonter le taux d'humus, mais il faut déjà le conserver.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme de conservation des sols ?
On ne travaille plus la terre, en fait, très peu, en superficiel, quelques centimètres. Et on tient toujours un sol couvert de végétaux, ce qu'on appelle le cipant. Là, on sème du cipant, c'est des engrais verts. C'est des mélanges d'herbes graminées, légumineuses. Et avant, on désherbait tout ça, on se met directement avec un semoir. Maintenant, on essaye d'autres méthodes, c'est-à-dire on écrase la matière verte par un rouleau et il y a un semoir qui suit derrière, qui va semer. Mais c'est très dur à pratiquer. Donc ça a été pratiqué dans les grandes cultures parce que les semoirs sont très chers. On économise de l'intrant. L'intrant, c'est tout ce qui est engrais chimico-organique. Hein. Et on a un sol absorbant et filtrant bien l'eau. Donc, le système, c'est qu'on a de la vie dans terre, surtout les vers de terre. Ils naviguent de haut en bas. Ils vont aérer le sol, qui permet que l'air qui circule. L'eau va circuler aussi. Donc, elle pourra descendre aux nappes phréatiques. C'est toute une vie microbienne qui s'installe. Et on a aussi les racines des plantes qui descendent, qui font des galeries, et l'eau peut descendre. Si on ne garde pas la vie microbienne dans une terre, on a une terre morte. Et elle absorbe plus l'eau, et surtout de l'érosion. On va partir toute la terre. Ce système, moi je le trouve très bien, mais il est dur à mettre en place.
Une fois récolté, le blé doit être transformé en farine. Pour ça, un passage au moulin s'impose. Jean-Michel Cellier, fils d'artisan meunier, pour qui la meunerie n'a plus aucun secret, nous parle du moulin et de son histoire. Déjà, qu'est-ce qu'un moulin ?
Le moulin, c'est un procédé mécanique qui utilise une force extérieure, musculaire, animale, le vent, l'eau, l'électricité, pour actionner une machine en fonction de sa destination. Il n'y a pas que des moulins à farine sur Terre. Il existe des tas de moulins différents. Moulins à café, moulins à poivre, moulins à chanvre, moulins à sel, des martinets, des moulins de voiture.
Et concernant les moulins à farine, quels sont leurs fonctionnements ?
Vous avez d'abord les moulins à vent, un moulin tour, comme son nom l'indique. C'est une tour avec des ailes. Et puis après, vous avez les moulins à pivot. Alors ça, c'est un moulin qui tourne sur sa base, en fonction de la direction du vent. Et puis vous avez des moulins caviers, des moulins qui étaient installés sur une cave ou sur un tertre, indépendamment du moulin. Des systèmes sur mesure ou d'autres usages tels que le moulin à marée, des moulins fortifiés. Les moulins étaient des richesses qu'il fallait défendre parce que la farine et notamment les céréales, c'était des denrées qui étaient très 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 convoitées, on va dire. Alors maintenant, le deuxième type de moulin qu'on va dire, c'est les moulins à eau. À chacun son moulin, parce que les moulins, c'est comme les orgues, c'est tous des types uniques. Ils sont toujours faits sur mesure. Donc, ils sont situés la plupart du temps sur le bord des ruisseaux, sur le bord de l'eau. Ils utilisent le passage du courant comme source d'énergie. Leur situation est étudiée avec grand soin pour développer une efficacité au maximum.
Donc, comme vous l'avez dit, les moulins, ce sont des modèles uniques. Mais comment on adapte son moulin à ses propres besoins ?
Chaque moulin est unique et construit en fonction de sa situation et de ses besoins. En fonction des risques de crue aussi et d'inondation. Et sur les bords des rivières, notamment des rivières de plaine, on utilise souvent des roues à pales. Et elles ont une activité uniquement par le courant. C'est le courant qui entraîne et qui fait tourner la roue. La plupart du temps, on utilise aussi les roues à haut jet. L'eau arrive par le dessus et elle tombe dans une espèce de grande cuvette. Le poids d'un côté fait tourner la roue. Et au Moyen-Âge aussi, on utilisait très couramment les roues à cuillère. Alors ça, c'était des roues qui étaient facilement fabriquées par le meunier, d'ailleurs. Il suffisait des pièces de bois. On changeait de temps en temps une ailette et puis c'était reparti pour un tour. Au 19e siècle, les roues à turbine, c'était à peu près le même principe que les roues à cuillère. Mais elles étaient beaucoup plus efficaces et surtout elles étaient plus solides.
On parle de roue de moulin. Comment fonctionne cette pièce du moulin ?
La roue, c'était une pièce maîtresse du moulin, c'est vrai. La plupart du temps en bois. Et il fallait régulièrement resserrer quelques boulons, changer les planches, graisser les pignons. Une roue, même bien faite, même entretenue, elle durait entre 40 et 50 ans, pas plus. Il fallait la modifier ou la changer. Pour la remplacer, il fallait faire appel à des artisans spécialisés qui la réalisaient sur mesure. Pendant la période d'étiage de la rivière, on ne pouvait pas faire tourner le moulin, il n'y avait pas d'eau. Le mouvement était entraîné par des rouettes fausses. C'était des roues dentées qui étaient fixées sur l'axe de la roue et qui était destiné à distribuer l'énergie dans les étages supérieurs, notamment dans les meules. Sur la partie verticale, c'est ce qu'on appelle un rouet de fosse, et la partie horizontale, on appelle ça un rouet de volet. Alors, elle s'était munie de dents. La plupart de ces rouets étaient en fonte, mais les dents étaient en bois, parce que chaque fois qu'il y avait une dent qui cassait, ça évitait de changer la roue. On changeait la dent. Alors, ces dents étaient fabriquées avec du bois de sorbier, la plupart du temps, qui était flexible, résistant, à la fois aux vibrations et à l'humidité.
On a parlé de l'extérieur du moulin, mais comment ça se passait à l'intérieur ?
Donc, le blé était stocké au moulin, et il venait de la moisson des paysans des alentours. Il était nettoyé des impuretés, de son humidité, et était contrôlé. C'était assez compliqué parce que pour faire de la bonne marchandise, il fallait que le blé soit à une certaine humidité. C'est alors seulement qu'il était moulu avec les meules de pierre. Le blé était versé dans une trémie. C'est un gros entonnoir situé au-dessus des meules, d'où le grain tombait avec une régularité grâce au babillard chargé de réguler le débit. Écrasé entre les deux meules, alors la meule gisante, elle bougeait pas, et celle du dessus, elle tournait. Alors les grains étaient écrasés entre les pierres et évacués à l'extérieur. Alors la vitesse de rotation était contrôlée avec précision à l'aide d'un régulateur à boules. C'est la force centrifuge qui faisait remonter un petit coulisseau et qui actionnait une petite clochette. Quand il était arrivé à une vitesse trop importante, eh ben ça faisait actionner la petite clochette, il s'est réveillé le meunier. Ça faisait du bruit. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le meunier, il avait toujours sa porte ouverte. Parce qu'on avait beau frapper, on n'entendait que dalle. Et c'est pour ça qu'on dit, on rentre comme dans un moulin.
Et une fois que le meunier avait obtenu sa farine, qu'est-ce qui se passait après ?
Alors la farine était obtenue et filtrée par une bluterie. Alors cette bluterie, c'est une espèce d'entonnoir qui est à l'horizontale, mais légèrement penchée sur le côté, et qui était destinée à éliminer les sons, les différents types de farine, et de récupérer donc la farine propre. Le blanchisseur, c'est une machine qui était destinée à tamiser les différentes formes de farine selon la grosseur. On avait des farines panifiables, vous avez des farines pour les pâtisseries, vous avez des farines pour les animaux, vous aviez toutes ces espèces de trucs. Et là, ça les séparait toutes. Alors, c'était des petits couloirs de soie qui tournaient à l'horizontale. Et dedans, il y avait des petites brosses qui naviguaient en fonction de la farine arrivée. Ça la poussait, ça la faisait descendre. C'était intéressant, c'était spectaculaire à voir. Par contre, c'était bruyant.
Et c'est donc à ce moment-là que le meunier pouvait livrer lui-même sa farine.
Elle était prête à être ensachée. Ce n'était pas des sacs de 25 kilos. Hein. C'était des bauges. Alors, la bauge fait 100 kilos. Donc, il fallait des costauds quand même. Hein. Quand il fallait livrer cette farine chez le boulanger, il fallait la monter au grenier avec une échelle. C'était pas gagné d'avance. Mais par contre, la farine, c'était quand même un produit sensible. Il n'y avait pas un sac qui sortait du moulin sans être plombé avec un acquis des contributions directes. Chaque livraison, c'était un casse-tête. Maintenant, c'est plus pareil. Entre les années 45 et les années 60, c'était ça. Il fallait passer par une autorisation spéciale des contributions indirectes qu'on allait chercher dans le village d'à côté, etc.
Moi j'aimerais bien pouvoir me battre en Espagne contre des moulins, pourvu que je sois Don Quichotte, pourvu qu'il y ait des moulins, sous un soleil qui vaut de l'or, avec la mer qui campe au loin, poussant ses vagues au creux d'un port.
Bien que les moulins d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux contre lesquels se battait Don Quichotte, la meunerie n'a pas disparu pour autant. C'est un métier toujours actif, bien que ses représentants se fassent de moins en moins nombreux et que les méthodes ont bien évolué. Pour nous présenter ce travail, Benjamin Place, meunier à la minoterie moderne de Montfaucon en Velay, en Haute-Loire. Aujourd'hui, comment on fait de la farine ?
Donc le blé rentre au moulin, on fait rentrer beaucoup de variétés de blé, c'est-à-dire chez un même collecteur, dans un silo de blé, il a en moyenne entre 5 et 10 variétés de blé. Moi je travaille avec 3 collecteurs différents sur 3 zones différentes, c'est-à-dire la plaine du Forêt, la plaine de Brioude et la plaine de Coade. Et sur ces zones-là, donc ils ont tous des variétés différentes, ce qui permet d'avoir une énorme diversité sur les céréales que je peux utiliser, ce qui me permet d'avoir une régularité aussi tout au long de l'année. Le blé, donc, on a une analyse avant de l'acheter. Après, on l'analyse au cours de l'année. Le collecteur fait des analyses sur le blé avant de nous le livrer. Le blé rentre au moulin, il est nettoyé. Après, derrière, il est mouillé. On lui laisse 24 heures de repos. On l'écrase. Donc, ça passe par une première machine, le B1, les broyeurs. On vient pas éclater le blé. C'est pour cette raison qu'on le mouille. On vient le déchirer. On le déchire. C'est deux cylindres qui tournent dans le même sens, qui sont crantés et qui viennent déchirer la pellicule du blé pour pouvoir extraire l'amande à l'intérieur, là où il y a la farine. Donc il y a 6 machines, et à chaque passage qu'il est écrasé, on extrait un petit peu de farine. Quand on arrive en haut du planchistère, le planchistère c'est un tamis qui vient juste tamiser la farine et qui répartit la granulométrie de ce qui reste du blé et qui répartit ça sur les machines. Et à chaque passage, on vient gratter un petit peu plus la pellicule du blé pour essayer d'extraire un petit peu de farine.
Pour un kilo de blé, on a combien de grammes de farine qui en ressortent ?
Il y a entre 25 et 30% de perte. Ça dépend de la qualité du blé, on appelle ça du poids spécifique du blé, c'est-à-dire c'est plus ou moins sa taille et la quantité de farine qu'il peut avoir dans le grain. Il faut enlever entre 25 et 30% du poids du blé pour avoir un kilo de farine.
Et donc vous faites quel type de farine ?
On fait de la farine blanche et sur la Haute-Loire, on a la particularité, nous, sur notre moulin, de faire beaucoup de seigle. On a un approvisionnement de seigle sur la plaine en Ardèche, sur la plaine de la Haute-Loire et on est spécialisé sur le grain de seigle. On ne fait pas de mélange à la mouture, déjà. Après, on peut faire le mélange en assemblage de farine, mais pas de mélange sur la mouture. Parce que le grain de seigle, c'est un petit grain qui fait un PS en moyenne de 70-72. Et ça se mélange mal et le blé, lui, a un PS de 60, entre 76 et 78. Donc à l'écrasement, ce serait trop compliqué. PS, poids spécifique du blé, c'est la taille du grain de blé. Après, on a une autre variété de blé, mais qui reste du blé, on appelle ça le blé de force. C'est un blé qui est cultivé et qui a une teneur en protéines plus importante que du blé standard, quoi. Et ce blé de force est utilisé, on appelle ça farine de gruau, est utilisé souvent pour faire des pâtisseries ou de la viennoiserie.
Quelle différence y a-t-il entre le blé dur et le blé tendre ?
Alors le blé dur, en termes de mouture, c'est complètement différent. Le blé dur est destiné à faire des pâtes ou de la semoule, que le blé tendre est destiné à faire de la farine. Alors aujourd'hui, on a des boulangers et puis des meuniers qui arrivent à faire du pain avec de la farine de semoule de blé dur. Mais jusqu'à présent, c'était destination principalement pour faire des pâtes.
Comment fait un meunier pour être alimenté en blé tout au long de l'année ?
La filière s'est structurée, on s'est mis en place des collecteurs. Et ces collecteurs-là font le métier donc de le stocker. Alors ils ne le sèchent pas, ils le refroidissent. L'objectif, c'est de le ramasser à la moisson avec une teneur en humidité de moins de 15%. Et eux, quand il fait froid surtout, c'est à ce meilleur moment-là pour refroidir le blé, pour éviter le développement d'insectes, ils les soufflent, ils les refroidissent par soufflement. Donc l'hiver, ils font tourner des souffleries pour venir refroidir le blé. Même pour nous, dans la meunerie, c'est pas très bon d'écraser des blés qui viennent d'être ramassés tout de suite. On dit que le blé est pas réellement fini, il est pas à terme, il est encore un peu mou, pas forcément sec. Donc c'est dur après pour nous à écraser en fait. On incorpore souvent les blés de la nouvelle récolte, 3, des fois 4 mois après qu'ils aient été récoltés. Qu'ils soient bien stabilisés, que derrière les boulangers ne soient pas trop pénalisés, parce que c'est pas qu'ils sont mauvais, mais ils sont beaucoup plus difficiles à travailler.
Comment ça se passe pour un meunier qui doit produire une farine bio ?
Je ne suis pas certifié, on a eu fait du seigle bio parce qu'on avait la demande. Aujourd'hui, on fait pas de farine bio. Il y a une certification à avoir, et puis j'ai des confrères qui font du blé bio avec du blé conventionnel. Il y a des moments de rinçage, il faut rincer le moulin entre-temps, donc il y a une contrainte. Et puis après, il y a une logistique aussi d'entreposage de farine bio, blé bio, donc on n'a pas pris ce cheminement. Nous, on préfère rester sur du local. Il y a les gros moulins qui sont même spécialisés, des gros moulins qui font que du bio. Et puis il y a aussi, j'ai des confrères meuniers qui sont même taille que moi, plus petits ou plus gros, mais qui, eux, le font. Après, moi, aujourd'hui, j'ai plutôt joué la carte. Je travaille avec un moulin qui est sur la Gimont, pas très loin de chez nous, et je travaille avec lui, je distribue ses farines. On travaille en partenariat et ça se passe très bien comme ça.
Selon vous, quel avenir a la meunerie devant elle ?
Alors, l'avenir pour la meunerie, c'est vrai qu'en 1950, il y avait quasiment entre 900 et 1000 moulins en exploitation. Aujourd'hui, il y en a moins de 300. Les périodes qu'on vit actuellement sont aussi difficiles, entre le prix de l'électricité, les céréales, bon, elles ont monté, elles redescendent. Enfin, voilà, nous, on est structure familiale, on essaye de tenir. Aujourd'hui, les gros sont de plus en plus gros, les petits, au milieu de tout ça, c'est compliqué. C'est vrai qu'on se pose des questions. On a des artisans qui sont là, des bons artisans, qui ont du mal à trouver de la main-d'œuvre, à trouver des gens qualifiés, qui s'intéressent au métier, malgré les contraintes, et à gagner en qualité et à tenir ce niveau-là. Et puis d'un autre côté, on a la grande distribution, les chaînes qui se mettent en place, deux marchés complètement différents mais qui peuvent vivre aussi ensemble. Et au milieu de tout ça, il y a le consommateur qui doit choisir, qui n'a pas forcément à choisir, qui peut aussi bien aller d'un côté ou de l'autre, mais le marché est compliqué. Et nous, meuniers, ben, souvent, on est plus sollicité par de l'artisanat que par ces grandes chaînes, mais on ne sait pas forcément comment se situer, avec qui il faut aller travailler. On a besoin de vivre aussi, donc vendre notre farine. On est plus proche de nos clients artisans, parce qu'on est aussi, nous aussi, artisans. On aide plus l'artisanat parce qu'ils sont demandeurs d'aide, donc on est dans l'échange, le partage, mais on est inquiet aussi. Après, aujourd'hui, la consommation de pain a énormément baissé. Si aujourd'hui les Français se remettaient à manger entre 50 et 100 grammes de pain en plus par habitant, la meunerie française, enfin, et peut-être même mondiale, ne serait pas capable de fournir. Donc ça peut se jouer à pas grand-chose. Si tous les Français se remettent à manger du pain, ben... les boulangers et les meuniers s'en sortiront.
De nos jours, comment on devient meunier ?
Aujourd'hui, il y a une école de meunerie qui était à Paris. Il n'y en a plus qu'une en France, ouais. On a la chance d'en avoir une. Mais elle est sur La Rochelle maintenant. Elle est associée aussi avec l'ENSMIC. Et cette école-là, est, pour vous dire, je crois qu'il y avait entre 4 et 6 élèves en BTS meunerie. Alors, ils font beaucoup de formations adultes. Ils ont plus de personnes en formation adulte, mais c'est compliqué. J'ai pas fait l'école de meunerie. J'ai fait sur le tas et voilà. Mais il y a beaucoup de meuniers sur le tas, en fait, dans le monde de la meunerie, en fait.
Combien de personnes travaillent dans votre moulin?
Nous, sur le moulin, on est 18. Donc, on va chercher le blé, on l'écrase. Il faut aussi le commercialiser et on livre nos clients aussi. Donc, il y a une grosse partie logistique de transport.
Et enfin, comment est fixé le prix du blé et donc le prix de la farine?
Alors aujourd'hui, le marché il est mondial, même s'il est donné par l'Amérique, on parle de Chicago souvent, mais c'est pas forcément eux qui tiennent le prix. Dernièrement, c'était plus ou moins la Russie, l'Ukraine, enfin les aidements qu'il y avait. Les choses sont compliquées à comprendre parce que le blé est monté à des niveaux, on est monté à plus de 440 euros la tonne, et puis aujourd'hui le blé est en train de redescendre complètement. On descend en dessous des coûts de production du milieu agricole. Donc ça va susciter des problèmes à la récolte où les agriculteurs, s'ils décident de vendre, ils vont vendre en dessous de leur coût de production. Le marché est complètement décalé de la réalité et aujourd'hui ben, ça va créer des problèmes à tous les niveaux. Donc c'est compliqué pour toute la filière en fait.
Une fois passée l'étape du moulin, la farine arrive chez le boulanger qui peut alors préparer son pain. Mais là encore, les méthodes ont bien évolué, tout comme le rapport des Français avec cet aliment qui était autrefois la base de l'alimentation d'une grande partie de la population. Retrouvons Fanelli Crouzet, gérante de la boulangerie Les Caprices de Fanelli dans le Rhône, qui nous parle de l'histoire du pain depuis le début du XXe siècle. Aujourd'hui, on a des boulangeries qui vendent de plus en plus de produits. Donc, quelle est la place du pain aujourd'hui pour un boulanger ?
Le pain était très gros. Avant, on faisait des miches pour une semaine. Des miches de 2, de 3, de 4 kilos. Maintenant, on est assujetti à la baguette. La baguette, maintenant, c'est celle qui prime. Avant, le boulanger, il vendait que du pain. On va dire qu'il y a une période où il vendait du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie. Aujourd'hui, un peu moins à la campagne, mais en ville, qu'est-ce que vend le boulanger en premier, la plus grosse, son chiffre d'affaires, c'est le snacking. Le pain n'a plus aucune place dans une boulangerie, finalement.
Quelle transformation a subi le pain au cours de ces dernières décennies ?
La couleur du pain, elle était noire, elle était bi, elle était brune, elle est blanche, le plus blanc possible. Les semences, on est passé des blés population, des mélanges de blé, aux variétés pures, qui étaient la sélection de blé par leur taille. C'est les agriculteurs qui ont donné le pas facile à récolter. Donc ça a été pour ça qu'on les a sélectionnés. Et puis peu à peu, on a essayé de trouver des farines de plus en plus fortes. Ça a été une sélection. Et puis est né le catalogue. Et là, le catalogue, ben, c'est nos semenciers, Monsanto, etc., qui ont donné le là. Et il ne faut pas sortir du catalogue. Heureusement, aujourd'hui, une résistance s'organise, les blés population sont de retour.
Comment le travail du boulanger a évolué ?
La chimie s'est invitée de 1900 à aujourd'hui. On va dire qu'entre les deux guerres, la chimie est apparue, la mécanisation est apparue en proposant la mécanisation des fours de plus en plus performants. On est passé du four à bois au four électrique. Les pétrins aussi. Avant, on était dans les pétrins en bois et les pétrins se sont mécanisés. On a vu apparaître les chambres de fermentation qui permettent un travail différé. On fait le pain le jour A, on le cuit le jour B. Donc toute cette modernisation a été plus de mécanisation, moins de temps. On a gagné du temps. On n'a pas gagné de la qualité.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance du pain dans la culture française ?
Ben, la religion, il y a quand même une grosse part. Jésus est pain de vie. On a donc tout ce qui est lié à la scène, la communion, le dernier repas du Christ. Ceci est mon corps. Le pain, c'est le corps du Christ. Et ça, ça a une importance pendant très, très longtemps. À la table, on rompait le pain. À table, on faisait une croix sur le pain avant de l'entamer, bien sûr, pour remercier, parce que c'était une nourriture, fruit de la terre vivante. Le pain est sacré, on ne le gaspille pas. Et ça, ça a beaucoup changé aussi. Et puis aussi, on ne met pas le pain à l'envers sur la table. C'était un geste de profanation. Tout ça a bien changé. Aujourd'hui, on a oublié toutes ces valeurs.
Dans l'histoire, le pain a souvent été rapporté au peuple. Quelle est la dimension politique du pain ?
Les prix ont été encadrés pendant très longtemps. Jusqu'en 1978, le pain était encadré par l'État. Il a été monnaie d'échange pendant très longtemps. Le pain, c'était, sous l'Ancien Régime, source de revenus pour l'État, pour l'Église, pour la noblesse. Il était aussi ce qui permettait de rendre dépendant et servile le peuple. Il est une monnaie d'échange aussi à l'international, le pain. Il a été donc pendant longtemps, le prix du pain a été longtemps fixé par l'État. Et puis, en 1978, le prix du pain a été libéralisé et ça a créé, entre guillemets, beaucoup de mouvements. Le pain était arrivé à une qualité vraiment très très mauvaise. Le pain d'après-guerre était vraiment arrivé à une mauvaise qualité parce que la farine était mal transformée.
On voulait sortir du pain noir, donc on a demandé aux boulangers de faire du pain blanc. Il fallait surpétrir.
Ça a été une des composantes. Après, il y a eu aussi des abus de mélange de farine avec d'autres produits qui ne sont pas forcément des produits additifs ou chimiques, mais qui peuvent être aussi des produits type de la chaux ou n'importe quoi. Parce que comme le prix était fixé, le boulanger devait gagner sa croûte, donc il a vraiment été bafoué et maltraité.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, il y a eu une amélioration de la qualité du pain. Pourquoi ça ?
Il y a une personne qui s'est intéressée très très grandement au pain qui s'appelle Stephen Kaplan et qui a écrit cet ouvrage dans les années 2000, Le retour du bon pain. Après la libéralisation du pain, il y a vraiment eu une volonté de retrouver une qualité dans le pain. Il y a des boulangers qui de tout temps ont continué à faire du bon boulot, notamment Poilane à Paris ou Jean-Luc Pougeron, qui sont deux très grands boulangers parisiens. À Lyon, on avait Jean-Luc Manot qui était un très grand boulanger. On en parle très très peu, mais c'était quelqu'un qui travaillait très bien. Et puis, dans les années 80, 83 exactement, Jean Paquet, qui était président de l'Assemblée permanente des Chambres des Métiers, président du syndicat de la boulangerie du Puy-de-Dôme et vice-président de la Confédération de la boulangerie, va déclencher au niveau national les états généraux du pain. Parce qu'il fallait faire quelque chose pour la boulangerie. Il fallait remettre le pain à l'honneur, il fallait le réaméliorer, il fallait le sauver. Il va cheminer et il va arriver avec les politiques à 1993 à un décret le 13 septembre. Ce décret, c'est le décret pour le pain de tradition française et pain maison. C'est une législation pour dire que le pain doit être fait dans le fournil, donc pas de pain congelé, pas de pain transformé ailleurs, donc on n'est pas des terminaux de cuisson. Mais aussi, surtout, le pain de tradition française, c'est un pain qui retrouve un critère qui est le temps qu'on y passe, c'est-à-dire que je crois que c'est 4h30 minimum pour faire un pain, et surtout aucun additif chimique. Les trois additifs chimiques sont le monosodium d'acide gras, la lécithine de soja et l'acide ascorbique qui sont interdits dans la farine de tradition française. Ça a été déjà un premier pas pour le retour du bon pain. Et puis, forte de cette expérience-là, il y a eu un effort de fait sur les formations. Et Jean Paquet a permis, avec les politiques aussi, d'ouvrir une école qui s'appelle l'INBP à Rouen, Institut National Boulangerie de la Pâtisserie, qui est une école qui aujourd'hui est une des plus grandes écoles en France, si ce n'est la meilleure, où on travaille à nouveau des méthodes au levain, des méthodes, voilà. Il y a eu des pistes pour un renouveau sur le pain. Donc, tout n'est pas perdu et je pense qu'aujourd'hui, on a un besoin, je pense, et un coup de main nécessaire par les politiques aussi. Il faut qu'on reprenne un petit peu, j'ai envie de dire, le bâton de maréchal, mais je pense qu'on peut y arriver.
Et enfin, par rapport au siècle dernier, quelle évolution sur la consommation de pain pour les Français ?
En 1900, le Français mangeait 900 grammes de pain par jour, ce qui représentait 328 kilos de pain par an. En 1950, le Français mangeait 128 kilos de pain par an, ce qui représentait 350 grammes de pain par jour. Et aujourd'hui, donc, c'est 48 à 58 kilos de pain. On a deux données, ça représente entre 120 et 150 grammes, c'est-à-dire une demi-baguette. On peut effectivement approprier ça au fait qu'il y a une urbanisation, l'exode rural, le travail des femmes, la restauration hors foyer, les gens ne mangent plus chez eux, et puis le travail qui est moins physique, donc on mange peut-être moins de pain parce qu'on sollicite moins notre corps, donc on mange peut-être des choses comme les chasseurs-cueilleurs avant, ils ont sélectionné, nous on sélectionne dans un autre sens, on essaye peut-être un petit peu de manger moins.
À tous les repas, car la fille que j'aime ne sait faire que ça.
Du pain et du beurre, à moi je n'aime que ça. Du pain et du beurre, et ça s'arrête là.
Oh oh oh, au début pour lui plaire, j'en mangeais de bon cœur. Quand j'en avais horreur.
Du pain et du beurre, à moi je n'aime que ça. Du pain et du beurre, aïe ça s'arrête là.
Alors elle m'a tendu un piège en mettant un beau jour sur une table du pain et du beurre, de l'eau fraîche et de l'amour.
Au pain et au beurre, je suis condamné à au pain et au beurre, à pour bien des années. À du pain et du beurre, à moi je n'aime que ça. À du pain et du beurre, et ça s'arrête là. À du pain et du beurre, à moi je n'aime que ça.
Que ce soit le pain ou le métier de boulanger, beaucoup de choses ont changé concernant notre rapport à cet aliment. C'est donc le moment de faire un état des lieux du pain en France, avec Fanélie Crouzet toujours, et Christophe Gilardon, qui est lui aussi boulanger à Saint-Romain-de-Popey, toujours dans le Rhône. Aujourd'hui, quel type de farine un boulanger peut-il trouver pour faire son pain?
On retrouve maintenant de la farine paysanne, il y a beaucoup de paysans qui font leur farine. Les farines artisanales, donc de petits meuniers, qui malheureusement, je trouve qu'il y en a de moins en moins. C'est très important le lien entre le meunier et le boulanger. Moi j'ai fait appel à Benjamin parce qu'il est au moulin, il est dans le camion pour livrer, il connaît son métier. La plupart des autres meuneries, ce sont des commerciaux qui viennent et qui viennent vous vendre, ils ne savent même pas ce qu'il y a dans leur farine.
De plus en plus, il y a un retour sur des farines un peu différentes. Les blés population, donc c'est les blés paysans, qui sont généralement moulus sur meule de pierre. C'est très important. Ça aussi, il y a un retour des paysans qui font leur mouture eux-mêmes sur un moulin qui s'appelle Astrier, qui est sur meule de pierre. Et donc, il y a un retour sur la farine demi-complète, mais aussi sur les farines de seigle, les blés de Corazan, qui sont des blés anciens, ce qu'on appelle aussi les blés premiers. Corazan est petite épeautre. Là aussi, on est sur des blés qui sont des blés de belle qualité et moulus sur des meules de pierre. Sélectionnés par les paysans, le blé population, c'est le paysan qui fait son mélange de semences. Il n'y a pas de sélection. Il mélange et en fait, c'est le blé qui va s'adapter au terrain. Alors, il n'est pas hybridé, il n'a pas été transformé de la main de l'homme. Donc, c'est vraiment la nature qui va faire l'adaptation, en fait. Le blé va s'adapter à une sécheresse, le blé va s'adapter, il va y en avoir des courts, il va y en avoir des hauts. Moins facile, peut-être, à couper, à moissonner.
Est-ce qu'il y a des législations qui encadrent la façon de faire le pain, donc notamment au niveau des ingrédients?
La législation nous impose de saler le pain à 18 grammes au kilo de farine. À savoir que on n'est jamais contrôlé là-dessus. Donc, si quelqu'un veut frauder, ils peuvent aisément frauder. L'OMS recommande de consommer moins de 5 grammes de sel par jour, ce qui représente une petite cuillère à café. Plus une pâte à pain est hydratée, moins le pourcentage de sel est important dans le pain. Une baguette de 250 grammes contient un peu plus de 3 grammes de sel, ce qui fait 14 grammes au kilo de pain cuit. Un pain de campagne, farine T80 hydraté à 80%, ne contient plus que 11 grammes de sel au kilo de pain cuit. Déjà, on diminue de 3 grammes. Maintenant, avec les nouvelles méthodes de travail qu'on a, avec des longues fermentations et du travail au levain, on arrive à saler le pain à 15 grammes au kilo de farine. Ce qui fait que dans du pain cuit, dans une baguette, on aura 9,30 g au kilo de pain cuit. Donc vous voyez, on passe de 14 grammes, presque 15 grammes, à 9 grammes. Il faut quand même manger moins de sel. Si vous achetez votre pain chez un artisan, le pain normalement est moins salé qu'en grande surface. Ce qui me met le doute, moi, sur les chaînes de boulangerie et les grandes surfaces, qui, je pense, salent un peu plus, parce que le sel appelle le sel, c'est un exhausteur de goût. C'est pour ça qu'on donne du goût au pain avec le sel qu'on rajoute dedans. On n'est plus dans la fermentation, on est dans le sel. La réglementation nous impose d'utiliser une eau potable, mais à savoir que l'eau potable est un inconvénient pour nous, parce qu'elle est chlorée. Et le chlore, les levures n'aiment pas le chlore. Donc on fera un meilleur pain avec une eau de source qu'avec une eau du réseau.
Il existe chez les boulangers, d'ailleurs nous en sommes dotés, une machine qui permet de nettoyer l'eau, d'enlever tout ce qui est métaux lourds, d'enlever le chlore, de nettoyer, redynamiser l'eau et avoir une eau de source en fait à disposition à partir de l'eau du robinet. Voilà, donc ça, ben, ça a un coût. Mais au moins, on apporte une qualité supérieure au pain par ce système-là.
Quelle différence y a-t-il entre la levure et le levain ?
La levure, c'est de la levure. Le levain, c'est de la levure aussi. Pour bien comprendre, la levure, moi, je les compare à des petits shaddocks. Des petits shaddocks qui pompent tout le temps sans savoir pourquoi ils pompent. La levure, c'est ça. On la met dans la pâte, elle va faire gonfler le pain, elle ne va pas réfléchir. Le levain, c'est plutôt comme des petits indigènes, qu'on arrive mal à maîtriser, qui font un peu ce qu'ils veulent. Selon le temps, selon la météo, selon les températures. Donc, ce qui explique pourquoi c'est plus dur à travailler au levain. Un gramme de levure de boulanger, il y a 10 milliards de cellules de levure dans un gramme. Dans un gramme de levain, il y a plusieurs milliers de levures. D'où la différence entre la levure et le levain aussi. C'est qu'il faut beaucoup moins de levure que de levain pour faire lever le pain. Un petit quelque chose que j'ai trouvé dernièrement, c'est qu'il existe une bibliothèque des levains en Belgique où on peut apporter son levain, n'importe qui, condition qui paye, bien sûr. Vous fournissez la farine et il vous entretient votre levain. Et il y a des levains du monde entier. Le petit retour de la chose, c'est que c'est Puratos qui a créé ça. Puratos, ce sont des industriels.
Par rapport au levain, reconnaître un pain au levain, sa levée est plus faible, sa texture est sensiblement plus dense et sa mie de couleur crème plus irrégulière. Souple et élastique. Sa croûte est plus épaisse. Ça expliquera que les pains sur levain ne sont jamais croustillants. La baguette croustillante sur les pains au levain n'existe pas.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du pétrissage et comment il s'effectue aujourd'hui ?
Pétrir, c'est pas juste mettre la farine, l'eau, on mélange, on pétrit. Non, c'est pas ça. Le pétrissage, l'objectif, c'est de créer le réseau glutineux. Sans gluten, sans réseau glutineux, on ne peut pas faire de pain, sauf dans un moule où le pain sera raplapla. Deux techniques, la première, la plus connue, c'est le pétrin mécanique, où à la main, on pétrit jusqu'à avoir une pâte lisse et que le réseau glutineux soit formé. Il y a une deuxième technique qui est beaucoup moins connue, on a besoin de se former pour ça, parce qu'il faut la comprendre, c'est la liaison protéique par la fermentation. On laisse fermenter pendant très longtemps. Et les protéines vont se lier toutes seules et le réseau glutineux va se former tout seul. Et on n'a plus besoin de pétrir. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on ne blanchit plus la pâte et on a un réseau glutineux qui est beaucoup plus digeste.
On n'invente rien par cette technique qui est pour nous paraît très difficile puisqu'on ne l'a pas apprise à l'école. C'est exactement ce qui se passe quand on pétrit à la main.
Voilà. En fait, on comprend aujourd'hui les gestes que nos anciens faisaient avant. On est capable de l'expliquer.
Le pétrissage, c'est juste un phrasage, en fait. On incorpore l'eau, la farine, le levain. On dilue, en fait, le levain dans l'eau. On fait rentrer la farine. Et après, c'est la nature qui fait son travail. Ça veut donc dire que si on travaille sur levain en pétrissage manuel, ce n'est pas nous qui dirigeons le pain, c'est le pain qui nous dirige. Parce qu'il faut du temps. Il faut rafraîchir les levains. Le rafraîchi de levain, eh ben, c'est lui qui va, entre guillemets, être plus ou moins capricieux, donc qui va nous imposer plus ou moins de travail, plus ou moins de temps.
Et donc, quel est le rôle du levain dans tout ça ?
Qu'est-ce qui se passe dans un levain ? Donc, le but de la fermentation, c'est de transformer les sucres en CO2 en alcool. Donc, le CO2 fait pousser la pâte et l'alcool est là pour apporter le goût, surtout. Donc, dans la fermentation de la levure, on n'a que cette partie. C'est-à-dire, les levures transforment en CO2 en alcool. Partie au levain, on a des bactéries lactiques et acétiques qui, elles, apportent du goût. Elles sont là pour ça, mais elles sont là pour plein d'autres choses aussi. Et ça, on l'a pas dans la fermentation à la levure.
Quelle évolution y a-t-il eu concernant la cuisson du pain ?
Avant, on cuisait, il y avait les fours à bois, il y en existe toujours. On a les fours électriques, beaucoup ont ça aussi. Mais on a surtout dans les boulangeries des types de fours où ils se ressemblent tous, Mais il chauffe différemment, c'est le chauffage indirect. Il peut être au gaz, au fioul, à pellet ou encore au bois. Il faut faire attention quand vous voyez pain cuit au feu de bois, ça peut être un four comme ça. Si c'est comme ça, c'est qu'il c'est un menteur. Hein. C'est pas du pain cuit au feu de bois. Un petit mot aussi sur les fours, parce que on revient un petit peu ce qui se passe sur l'énergie. C'est la pièce maîtresse qui consomme beaucoup chez nous, surtout quand c'est électrique. Et vous avez entendu dernièrement qu'il y a des problèmes d'électricité. On a la région qui nous donne des aides pour changer de four, ce qu'on n'a pas besoin réellement. Pour changer de four, pour y trouver des fours qui consomment moins.
Quel phénomène fait que le pain devient rassis?
Un jour, en réfléchissant, j'avais une baguette à la levure, une baguette au levain. Je me dis, le rassissement, c'est l'eau qui s'évapore, que le pain sèche, c'est ce que tout le monde pense. Et puis je me dis, mais pourquoi la baguette au levain va sécher moins vite que la baguette à la levure? Pourtant, l'eau s'échappe de la même façon. Mais en fait, le rassissement, c'est pas ça. C'est pas l'eau qui s'évapore. L'eau qui s'évapore représente 2% seulement. Le rassissement, c'est la rétrogradation de l'amidon. C'est l'amidon qui va se reformer, qui va se restructurer avec l'eau disponible dans le pain, reformer une chaîne d'amidon, et l'amidon, c'est dur. Donc voilà pourquoi le pain durcit. Sauf que dans le pain au levain, on a nos acides lactiques et acétiques qui sont là pour empêcher ce phénomène de rétrogradation de l'amidon. Elles retiennent l'eau disponible, ce qui fait que le pain sèche moins vite, tout simplement.
On parle beaucoup de gluten, c'est quelque chose qui est assez flou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le gluten ?
Le gluten n'existe pas dans le blé à la base. À la base, le blé a des protéines. Ces protéines, quand elles sont assemblées avec de l'eau et qu'elles s'épaississent, c'est ça qui devient le gluten. C'est la gluténine et la gliadine qui, mélangées, forment le gluten. Souvent, les intolérances sont dues à la gliadine, pas à la gluténine. D'où ce qui explique que ceux qui sont intolérants au gluten peuvent manger d'autres sortes de pain que du pain fait seulement avec du blé. Donc, quel est le problème donc du gluten? C'est pas le gluten le problème, c'est que c'est son industrialisation qui a posé des problèmes. Aujourd'hui, il y a deux usines en France d'extraction de gluten. Comme tout à l'heure, je vous ai expliqué pour le rassissement, je réfléchis, je me dis d'où vient ce gluten, puisque le blé qu'on écrase déjà pour nos farines, le gluten est dedans. Donc on va en rajouter, d'où vient-il? Et en faisant mes petites recherches, je me suis aperçu que ce gluten naît des blés déclassés, qui sont pour les animaux souvent, et c'est des blés souvent traités. Donc on extrait ce gluten et on va le rajouter dans des farines panifiables. Et voilà pourquoi après on en arrive à des situations comme aujourd'hui.
Ces entreprises qui récoltent le gluten et donc le synthétisent, le récupèrent dans le blé, il y a des quantités de blé qui sont dédiées à ça, à produire du gluten pour pouvoir le réintégrer dans le pain plus tard. Donc en rajouter encore en plus de ce qui existe naturellement quand on fait notre transformation.
Juste une petite image. Vous prenez des œufs industriels et des œufs de ferme. Les œufs, c'est une protéine, c'est comme le gluten. Si on les analyse, ils sont identiques, ces œufs. Pourtant, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Vous savez lequel? Mais je ne serai pas à vous expliquer pourquoi. Voilà, le gluten, c'est pareil, il y a le bon et le mauvais. C'est ce qu'il faut se dire.
Comme le cholestérol.
Est-ce qu'aujourd'hui, en boulangerie, le pain contient des additifs?
Aujourd'hui, dans l'alimentation, 320 additifs et améliorants sont intégrés dans nos nourritures, souvent bien, bien souvent industrielles, mais pas que, puisque nous, ce qu'on achète, on ne sait pas toujours, hein, les œufs, etc. Et il nous arrive forcément d'acheter des produits. Si on regarde les étiquettes, eh ben, il y en a de ces œufs et de ces... Donc, il faut être super vigilant.
On peut dire aussi qu'il y a certains artisans qui en utilisent.
Oui, complètement. Des colorants, des améliorants, de toute façon, voilà. Des améliorants pour la cloque, pour conserver le pain, pour permettre de durer dans la accrue entre guillemets dans les chambres de fermentation, une mauvaise maîtrise. Et donc, les boulangers achètent des mélanges de farine avec des additifs, et on ne sait pas parce qu'il y a rien sur les étiquettes ou pas grand chose. C'est quand même un peu compliqué pour nous, et c'est un peu aussi un parcours du combattant, d'où l'intérêt de revenir à des petits moulins qui vont être transparents avec nous, de revenir à des paysans boulangers, à des paysans minotiers qui vont faire eux-mêmes leur farine et qui nous livrent la transformation de leur blé dans les champs. Et voilà, il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'additif, il n'y a rien du tout.
Des artisans qui ne se remettent pas en question, voilà, ceux qui utilisent des additifs, qui ont toujours fait comme ça.
Ça va être une nécessité.
J'ai commencé le métier, j'ai utilisé des additifs parce que j'ai appris comme ça. Quand je me suis installé, je continuais comme ça. Puis un jour, j'ai oublié d'en commander, j'en avais plus. Ben, j'en ai pas mis. Puis je me suis aperçu que ça marchait. Alors, je dis pourquoi je vais dépenser des sous là-dedans alors que ça marche très bien.
Comme l'agriculture.
Voilà.
Donc, on retente des choses aujourd'hui, voilà, marche.
C'est ça, se remettre en question. Des artisans vont dire j'en ai plus, c'est une catastrophe, je vais vite me dépanner ailleurs. Ben non, il faut trouver des solutions. Et des solutions, il n'y en a pas besoin, c'est tout. Donc,
Et la formation doit nous aider là-dessus aussi, et on est très très loin du compte, parce qu'aujourd'hui, en formation, on apprend que le pain courant, le pain de tradition française, quelques pains spéciaux, campagne, complet, ils doivent en faire une fois dans l'année, et c'est un vrai gros souci ça, parce qu'aujourd'hui, les gamins qui nous sont confiés, entre guillemets, n'ont pas du tout une approche ni technique, ni pédagogique de ce qu'on fait, nous, dans nos fournils. Alors comme nous, on va très très vite, bon bah ils prennent le train en marche, ils n'ont pas d'explication à l'école, et à l'école, il faut bien le dire, nous avons un fournisseur qui s'appelle Moulin Marion, il livre 3 sacs de blé bio par an au CFA. C'est un vrai problème. Les enfants n'apprennent pas à faire de pain ni sur levain, ni de pain avec des farines biologiques dans les CFA. Et ça, c'est un vrai problème. Il va falloir que ça change, il va falloir l'aide de nos politiques pour ça. C'est important. Voilà.
On parle de santé depuis tout à l'heure. Il y a une autre question qui revient beaucoup quand on parle du pain, c'est est-ce que le pain fait grossir ?
Ça dépend lequel, voilà. Parce qu'il y a souvent des personnes arrivées au régime, les médecins les mettent au régime, on dit « mangez plus de pain ». Le pain fait grossir. Quand j'ai discuté avec des médecins, je dis pourquoi vous supprimez le pain ? On dit parce que on supprime ce qu'ils mangent avec comme ça. Voilà, ils cherchent pas, il est à 14h, ils vont droit au but. Donc voilà, donc le pain fait grossir, c'est sûr que si vous prenez, on vous dit de manger du pain complet, vous voyez, il y a 13 ingrédients dedans. On est dans des aliments ultra transformés déjà.
Et vous voyez qu'il n'y a pas de E ou de choses bizarroïdes, alors qu'il y en a, forcément. Et c'est pas noté parce que, je sais plus la législation, je crois qu'elle a changé, mais à une certaine époque, tout ce qui était à moins de 5% n'était pas obligatoirement marqué sur l'emballage. Ça, ça a changé il y a peu de temps.
Donc j'en viens à cette règle des 3 V, que j'ai trouvé ça intéressant. C'est Anthony Farder, docteur et chercheur en nutrition, qui travaille avec les ambassadeurs du pain. Et il a mis en place cette règle des 3 V, donc manger vrai, végétal et varié. La première règle, donc limiter les produits ultra transformés, c'est ce que je vous disais avant. Si vous limitez ça déjà, vous mangerez mieux et vous mangerez du vrai pain. La deuxième règle, privilégier les calories végétales. Si vous supprimez les ultra transformés, vous supprimez déjà tout ce qui est carné transformé. Donc vous mangerez déjà moins de viande. Et donc les calories végétales, c'est les pains santé justement que je vous parlais tout à l'heure, où on rajoute des farines de pois chiches, de lentilles. Et la troisième règle, manger varié, de saison, local et si possible bio. Donc le pain, on peut le varier. Il y a plein de sortes de pains. Aux céréales, seigle, épeautre. Donc le pain rentre parfaitement dans ces 3 règles.
Donc le pain est fait avec des ingrédients qui sont assez sommaires. Comment ça se fait que des gens aient du mal à le digérer des fois ?
Les blés anciens, on les travaille différemment. On va plus respecter la fermentation, travailler lentement, peu pétrir, ce qui fait que on va mieux le digérer. Le gluten sera moins structuré, plus facile à digérer. Si vous prenez une farine ancienne et que vous faites n'importe quoi avec, et que vous pétrissez à mort et vous bourrez en levure, il ne sera pas plus digeste. Le gluten est irresponsable des problèmes de digestion. C'est pas forcément vrai. C'est vrai dans la mesure où le pain est surpétri, trop pétri, trop de réseaux glutineux, là, il a un problème de digestion. S'il est peu pétri et si on respecte vraiment un travail rigoureux, au contraire, il est utile, le gluten, pour la digestion.
Ce qui peut poser des problèmes de digestion, on parlait tout à l'heure des mono- et diglycérides d'acide gras. Ça, c'est quelque chose qui est super, super mauvais, hyper inflammant. Et qui peut mener à des cancers du côlon. Donc c'est, voilà, les produits chimiques peuvent effectivement poser des problèmes de digestion ou des problèmes bien plus graves avec des maladies chroniques derrière.
Maintenant, on achète beaucoup de pain en graines. En fait, les graines, toutes les graines sont composées d'acide phytique. L'acide phytique, c'est comme une enveloppe qui protège la graine pour l'empêcher de germer. Cet acide phytique, il faut que nous, si vous voulez que cette graine soit digérée, il faut que nous, boulangers, on l'enlève, cet acide phytique. Et cet acide phytique, il ne peut être que détérioré par l'acidité, par un pH de 4,5 à 5, et on obtient ça avec du levain, tout simplement. Donc si vous achetez une baguette aux graines qui est faite à la levure, les graines, vous ne les digérez jamais. Autre chose, pour digérer les graines, il faut qu'elles soient concassées, légèrement abîmées, qu'il faut les faire tremper dans de l'eau pour les ramollir, et éventuellement les faire fermenter dans du levain, ce qui va aider à notre organisme à les digérer. Et même mieux, si on fait ce travail-là, les graines vont éliminer le cholestérol. Donc à nous, boulangers, de faire un gros travail là-dessus. On arrive à avoir des pains maintenant, le pain complet que je faisais tout à l'heure, un indice glycémique bas. Mais je me méfie beaucoup de l'indice glycémique, parce que d'une personne à l'autre, ça va marcher pour une personne, ça va moins bien marcher pour l'autre. Ça, chaque personne réagit différemment.
Aujourd'hui, qu'en est-il du prix du pain ? Comment il est fixé ?
Avant la crise énergétique, énergie et loyer, on était à 11%. Maintenant, on est bien plus, ce qui réduit le bénéfice, forcément.
Pour revenir au salaire, aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir des apprentis qui nous coûtent moins cher. Donc dans 53% du salaire, il faut bien se dire que c'est un peu déséquilibré parce qu'on a de la main-d'œuvre pas chère ou des stagiaires, ou etc. Si on devait prendre des personnes en CDI avec un salaire normal, on exploserait ces 53%. Et autre chose, aujourd'hui, ben, je prends l'exemple d'un croissant, par exemple, à 1,30€, fabriqué en 3 heures. Tout à l'heure, j'ai dit 7 heures du moment où on commence au moment où on le détaille, on le cuit, etc. Mais par contre, toutes les actions mis bout à bout, on a essayé de mesurer ces 3 heures. Si on met 4 heures, c'est-à-dire que si on perd un petit, on lambine un peu, ça passe pas. Un croissant à 1,30€, c'est 70 centimes de main-d'œuvre et 60 centimes de matière. Si on travaille avec des matières très haut niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un croissant fait en 3 heures avec des très bons produits et avec une main-d'œuvre qui est un petit peu rapide ne fait absolument pas gagner d'argent à un boulanger. Ça, c'est voilà, des choses qu'il faut arriver à prendre conscience. La question des prix aujourd'hui des boulangers, je pense que la baguette et le croissant sont deux produits responsables de la difficulté des boulangers aujourd'hui. Parce que c'est ce qui nous demande le plus de travail et finalement, c'est ce qui nous rapporte le moins d'argent. D'où le snacking pour sauver la mise, les canettes de coca achetées 20 centimes et revendues 2 euros, etc., etc. Et là, on n'est plus boulanger.
De nos jours, l'écologie, c'est un sujet prioritaire, notamment la question de la lutte contre le gaspillage. Comment un boulanger gère ses invendus pour éviter justement ce gaspillage ?
50 000 tonnes de pain invendues en France chaque année. Dans les grosses chaînes et collectivités, grandes surfaces, le pain est jeté à la poubelle, tout simplement. Encore nous, artisans, on arrive à garder le pain dur pour les animaux, pour les bêtes, à recycler. On peut le recycler en bière, en biscuits, on peut le donner donc à des associations comme les Restos du Cœur. Peut-être revendu sur des applications anti-gaspillage. Personnellement, j'ai essayé, j'ai arrêté.
Too Good Too Go, pour ne pas les citer. Voilà,
parce que c'est devenu quelque chose de...
Un business.
Un business, voilà. Il faut savoir que, par exemple, Too Good Too Go, j'ai travaillé avec eux. Le panier avait une valeur de 10 euros, on le vendait 2,50 €. Et Too Good Too Go nous prenait 1 euro dessus. Voilà.
Donc autant dire que notre travail, là encore...
Ils ont fait 30 millions de paniers en France, vous voyez combien ils ont gagné. Une start-up de 15 employés. Voilà, quand on sait ça, on n'a plus envie de travailler avec ça.
Autre donnée sur le gaspillage, l'alimentation en France, c'est un produit alimentaire produit sur 3 et jeté, n'est pas consommé. Donc il y a un peu de marge, je pense.
La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante. Ses croissants et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, 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 aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babayes. Un soir on est mariés, aïe, 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 tout en blanc. Qu'elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Et de leur union sont nés des tas de petits gosses, un peu comme papa. Gambadant parmi les brioches, se remplissant les poches de chocolat.
si peur d'une simple paire de lunettes pour approcher deux êtres et pour qu'ils soient heureux.
De la terre au pain, d'hier à aujourd'hui. Bien que notre façon de voir, de produire et de consommer cet aliment ait beaucoup changé à travers les décennies, il n'en reste pas moins un point fort de la culture française. Pour preuve, dans le monde entier, le français est toujours représenté avec un béret, mais surtout une baguette. Et même si le pain évolue, il reste essentiel et massivement consommé en France, par toutes et tous. Le 30 novembre 2022, cette part de la culture française a d'ailleurs été officialisée, puisque la baguette est entrée dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Une distinction qui permet de lutter pour la conservation de ce savoir-faire propre à la France et de saluer le travail de nos paysans et artisans.
Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel.
Venez d'écouter Aura des Pâquerettes, une émission proposée par Aura FM, la Fédération des radios associatives non commerciales.
Merci de votre écoute et à bientôt sur cette antenne, à la rencontre d'un autre territoire. Une émission en réécoute sur le site aurafm.org.
Aura des Pâquerettes.